pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview, pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Jazz Interview avec Julie Chaise-Martin. Le Sunset, mythique club de jazz de la rue des Lombards, fête ses 40 ans cette année avec 40 concerts de légende du 17 décembre au 8 février. Avec en point d'orgue une soirée exceptionnelle au Théâtre du Châtelet le 28 janvier, je suis partie à la rencontre de Jean-Marc Porté, fondateur du lieu en 1982, et de son fils Stéphane Porté, actuel copropriétaire et programmateur du club. Rencontre dans la Chapelle des Lombards, salle voûtée voisine du Sunset. Première salle où a retenti de la musique, rue des Lombards.
Ici, c'est l'ancienne Chapelle des Lombards. Il faisait du jazz. Et puis, vers 11h, minuit, il faisait salsa.
C'était cette configuration? Comment c'était?
Non, c'était comme ça, sauf que dans la petite salle, là, il y avait le bar avant.
Donc c'est le premier lieu où il y a eu vraiment du jazz dans cette rue des Lombards, en fait.
Oui, mais avant le jazz, ça s'appelait Swing Hall. Il y a Téléphone qui est passé là. Il y a Jacques Higelin qui est passé. Il y avait des groupes de rock.
Du coup, le Sunset, ça a commencé comment? Vous pouvez me raconter l'origine?
Alors, au départ, on a ouvert un restaurant qui s'appelait le Diable Vert. On a ouvert ça en 1976. On avait une salle au sous-sol qu'on n'utilisait pas, il y avait les toilettes, et puis on faisait des expos de peinture, des trucs comme ça, c'était brut de décoffrage, comme on dit. Hein. Le restaurant marchait très très bien, donc on s'est dit on va s'agrandir un peu, et en bas on a fait ce qu'on appelle, on a été sûrement le premier à faire ça à Paris, il y en avait après, il y en a eu à la Bastille, un bar américain. On avait fait un très beau décor avec carrelage métro, banquette en cuir, bar très long. J'ai été un peu naïf sur cette histoire-là. Et on ne faisait pas de sélection à l'entrée, donc on s'est très vite retrouvés avec des gens sympathiques, mais un peu voyous, quoi. Hein. Donc on a fermé au bout d'un an et demi. Et c'est à ce moment-là qu'on a changé de nom. Le restaurant s'est appelé Sunset au lieu de Diable Vert. Et on avait une clientèle principalement de musiciens et d'acteurs de cinéma. Le restaurant Diable Vert, c'était la cantine du Splendide, le théâtre du Splendide, qui est un peu plus loin, rue des Lombards.
Ils venaient manger souvent?
Ah, ils venaient tous les soirs. Hein. Il s'est construit plusieurs films ici. Hein. Et puis comme j'avais des musiciens et qu'ils ne trouvaient pas d'endroit pour jouer... Il y en a qui m'ont dit, il faudrait, mais je le disais, c'est mal foutu, j'avais un grand bar. Oui, ils m'ont dit, nous, il nous faut juste une prise de courant. C'était des musiciens tendance jazz-rock, fusion jazz-rock, il y avait beaucoup de matériel. Ils se sont occupés de tout, ils s'occupaient de la promotion, de la programmation, et ça s'appelait Paname Fusion. Voilà, après, on s'est structuré, on a pris un programmateur... Et petit à petit, à une époque, on faisait quasiment que du jazz rock. Il y avait un garçon qui s'occupait de ça, qui s'appelait Gérard Nagy, et qui a un peu débordé sur les horaires, quoi. Si bien que des fois, quand j'arrivais des courses de Rungis, avec ma voiture pleine de légumes, ils étaient en train de fermer à midi.
Ah oui.
Et il s'est passé pas mal de choses intéressantes, quand même. Jaco Pastorius... qui venait terminer ces soirées-là, hein. Et puis des fois jusqu'à 4h de l'après-midi, une fois ça avait duré jusqu'à 4h de l'après-midi, il jouait au New Morning le soir. Je crois que ce soir-là, il n'a pas pu jouer, hein, parce qu'il le cherchait partout encore à 18h. C'est-à-dire que Jaco Pastorius, il venait faire le bœuf, hein. Il venait avec sa basse électrique. Hein.
Il y avait qui d'autre dans les gants?
Oh, il y en a eu beaucoup, je saurais. Hermeto Pasquale, je sais qu'il venait aussi. Un Brésilien, et puis on a eu aussi un groupe de jazz rock à cette période-là qui s'appelait Uzeb, qui était considéré comme le meilleur groupe à l'époque au monde, hein. C'était des Québécois. Et pendant une semaine, c'était les mêmes clients qui étaient debout devant tous les fauteuils, tous les machins. De la place, ils étaient debout comme dans une boîte de sardines, mais tous les soirs, c'était les mêmes, ça leur plaisait beaucoup. et le son était puissant. Et les murs tremblaient un peu même. Moi, j'ai connu l'établissement, ça s'appelait déjà les Diables Verts, je me souviens, j'étais tout petit. La rue était encore accessible en voiture et je jouais dans la rue régulièrement avec mon petit ballon. Non, j'ai connu le lieu dès son origine et je les fréquentais d'une façon assez assidue puisque c'était plutôt sympathique d'avoir un père restaurateur avec une boîte de jazz, ça faisait bien pour les copains, ouais. Pour sortir. Donc oui,
il y avait du beau monde. Hein.
Alors qui justement?
Il y avait tous les gars, toute l'équipe du Splendid, il y a eu Coluche qui venait, tous les gens du coin. Hein. Moi, j'étais pas habitué parce que j'étais derrière mon bar, hein, à essuyer les verres, comme on dit. Mais à la télé, je disais, tiens, celui-là était chez nous. Mais on a même eu Belmondo, des gens comme ça. Hein.
Toute cette génération, en fait.
Mais ils venaient pour voir les jeunes.
C'était le restaurant à la mode. Et en plus, c'était un restaurant qui avait la faculté de servir tard le soir.
Donc, oui, il y en avait une autodresse sans nuit, alors ça leur plaisait bien.
Voilà. Donc forcément, après les spectacles, c'était un rendez-vous où tu avais à la fois des comédiens, des musiciens. Il y avait une espèce d'énergie un peu particulière. C'était en plus... Il faut dire le début des Halles. Il venait juste de raser le.
Oui, c'était le début des Halles.
Oui, c'est vrai.
Et
oui.
C'était l'époque. Ce quartier est devenu, dès le démarrage, très à la mode.
Oui, un peu off. Par rapport à Saint-Germain-des-Prés, où c'était des gens établis, un peu un bourgeoisie, etc.
Oui, c'est-à-dire qu'on connaît effectivement historiquement le jazz à Saint-Germain-des-Prés. Là, c'était. Voilà, ça a commencé à être un lieu différent, avec un public un peu différent. Ouais.
Alors pour information, il y avait déjà d'autres lieux de jazz dans le quartier,
d'accord.
Pas dans la rue des Lombards.
Ah oui.
Il y avait le Dreher qui était avenue Victoria, c'est ça?
Il y avait le Dreher qui était avenue Victoria, qui était un café, une brasserie classique, et qui le soir avait trouvé cette formule-là pour développer une clientèle.
Et tu avais le petit Opportun aussi?
Il y avait le petit Opportun qui est derrière le Dreher, qui est au coin de la rue Sainte-Opportune et la rue Coin.
Des Lavandières Sainte-Opportune.
Oui. Qui a été une institution, c'était même à un moment donné presque un des seuls clubs de jazz à Paris où on écoutait de la musique, parce qu'il y a une autre formule de jazz, style Huchette, où c'était plutôt un jazz pour danser.
Oui.
Moi j'ai connu le jazz à Saint-Germain-des-Prés, au club Saint-Germain-des-Prés, dans les années 50, 58. C'était entre les deux, c'était soit un peu festif et un peu pour écouter quoi.
Si tu préfères, au départ, le format n'est pas du tout le format qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on est plus une salle de spectacle qu'un club de jazz. Les gens venaient à la fois pour écouter, pour boire des verres, pour se rencontrer. Alors, il y avait beaucoup d'écoute. Et puis, les concerts commençaient très tard, aux alentours de 23h, voire plus. Et on ne sait jamais quand ça se terminait.
Oui, parce que c'était lié avec l'alcool et la fumée. Ce qui n'est plus le cas du tout maintenant.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut plus en fait reproduire.
On est très formaté aujourd'hui. Malheureusement, on a perdu toute cette attitude où c'était un endroit de rencontre, de discussion autour effectivement du thème du jazz. C'était pas du tout comme aujourd'hui où les gens sont comme dans une chapelle en train d'écouter. Aujourd'hui, auparavant, les gens s'asseyaient, mais ça discutait, tout en respectant bien évidemment la musique. Ça fumait, ça picolait, et c'était sans fin. Mm. C'est pour ça que, de temps en temps, Pastorius sortait à 4h de l'après-midi. Moi, je me souviens de musiciens un petit peu plus tard, parce que moi, je suis arrivé en 93, où les musiciens, à 9h du matin, tu les mettais dehors, parce qu'on était fatigués, il fallait bien se reposer, hein, il y avait la soirée. Ça, c'était des musiciens comme Francis Lecoud, Michel Graillet, Simon Robert, Christian Vander.
Ils allaient boire un verre dans un café qui s'appelait le Benjamin. Après, ils allaient tremper les pieds dans la fontaine des Innocents. Et à 4h, ils toquaient à la porte pour savoir s'ils pouvaient revenir à l'intérieur et continuer à boire. C'était sans fin. Il n'y avait pas du tout... On était dans des années où c'était pas pareil. La liberté n'avait pas du tout le même sens qu'elle a aujourd'hui.
Mais toi aussi, tu as vu en fait cette évolution. Puisque... Alors,
moi, j'ai connu cette fin de cycle. Effectivement, c'était pas du tout les mêmes us et coutumes. Je dis, les concerts commençaient à 23h le soir. Aujourd'hui, démarrer un concert à 23h le soir, on est totalement hors sujet. Et t'auras personne. Les gens sortaient avec beaucoup plus de facilité, s'enivraient avec beaucoup plus de facilité. Il n'y avait pas ce contrôle alcoolémique quand tu rentrais le soir. On était dans les années 70-80, c'était vraiment des années de liberté, très libertaire à tous les niveaux.
Alors, c'est une histoire de famille, hein, le Sunset, forcément, de père en fils. Stéphane, t'avais cette idée de reprendre l'activité ou ça s'est fait naturellement, enfin, comment ça s'est fait?
Absolument en fait
pas. Ouais.
On va dire que c'est le hasard qui nous a rapprochés sur le Sunset.
Bon, c'est pas le hasard, parce que t'étais quand même mon fils. Hein.
Oui.
Vous l'avez forcé un peu.
Non, mais
à un moment donné, j'avais besoin de quelqu'un pour. J'ai la programmation du jazz. Je connais un petit peu, mais je sais pas, il y a une grosse culture. Mmh. Stéphane l'a acquis petit à petit parce qu'il venait un petit peu de temps en temps. On a eu besoin d'avoir du 109, donc Stéphane a travaillé, il s'occupait principalement du club, hein, c'est ça?
Au début. Alors moi, je m'en souviens très bien, je suis arrivé en mai 1993. Mon premier concert, c'était avec un batteur qui s'appelait Sonny Murray. Et je me souviens très bien parce que ce soir-là, c'était la finale de la Coupe d'Europe entre le Milan AC et Marseille. Et bien évidemment, on n'avait personne dans la salle, surtout avec Sonny Murray qui était un batteur de free jazz. Et je me souviendrai toujours de cette première soirée. Moi, absolument, je ne connaissais pas grand-chose, à part les Michel Petrucciani, etc., etc. Et je n'y connaissais pas grand-chose. Et il s'est avéré qu'il y avait un changement d'équipe. Et tout d'un coup, les musiciens qui boudinaient un petit peu le lieu, parce que le Duc avait ouvert à ce moment-là, était devenu un petit peu le club, on va dire, à la mode. Il avait été repris par Didier Nuragat, mais il y avait plus une dynamique sur le Duc des Lombards à ce moment-là que sur le Sunset. Moi, je suis arrivé, n'y connaissant pas grand-chose, et les musiciens tout de suite m'ont pris en affection et m'ont dit « on va t'aider ». On va te donner des idées pour la programmation. Et c'est là où j'ai rencontré, entre autres, les Belmondo, Simon Goubert, qui était déjà là, hein, Christian Vander, moi, toute une clique de musiciens qui sortaient très tard le soir et qui savaient que le jazz se faisait dans ces lieux-là.
Alors justement, quand tu cites ces noms-là, il y a des fidèles du Sunset, toujours aujourd'hui, plusieurs années après. C'est aussi l'objectif là, des 40 ans de l'anniversaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette programmation anniversaire?
Alors, évidemment, je vais me faire beaucoup d'ennemis dans cette programmation.
Il a fallu en choisir
plus que d'amis, parce que honnêtement, c'est pas un mois de programmation qu'il aurait fallu, c'est un an de programmation pour pouvoir fêter cet anniversaire. Maintenant, il faut faire des choix. Mmh. C'est comme ça, c'est la vie.
Le plus difficile dans cette affaire-là, c'est de dire non à quelqu'un.
Eh oui.
Tu passes plus ton temps à dire non que à dire oui. Et quand tu as des musiciens en face de toi qui sont des êtres particulièrement sensibles, donc il faut toujours prendre beaucoup de doigté pour expliquer pourquoi tu ne programmes pas, parce qu'on ne comprend pas toujours, ma musique elle est bien, pourquoi tu ne programmes pas? Bon, il y a différentes circonstances qui font que tu n'acceptes ou tu n'acceptes pas une programmation. C'est vrai que la programmation qui est mise en place pour les 40 ans, c'est plus la période 93 jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est celle qui me correspond plus. Et puis d'autre part, malheureusement, avant 93, il y en a malheureusement plein qui ne sont plus là aujourd'hui, entre le Covid où un certain nombre sont décédés.
Ah oui, quand même, le Covid a été...
Le Covid a été, en tout cas sur les musiciens américains que j'aurais aimé avoir, il y a quand même une hécatombe, on va dire. Et puis d'autre part, il y a plein de groupes qui aujourd'hui, qui étaient, comme on parlait de la période jazz rock, jazz fusion, qui n'existent plus aujourd'hui et qui sont impossibles à réunir. Donc voilà, moi j'ai pioché plus dans des musiciens qui m'ont accompagné depuis 1993. Je pense que les premiers à venir à ouvrir le bal, c'est des Belmondo, qui sont pour moi des musiciens avec qui on s'est toujours suivi. Au-delà de l'aspect musical, ce sont des amis. Et on a partagé pas uniquement des faits de scène, des faits artistiques, mais aussi des faits de vie. C'est
très difficile
de répondre.
Il y en a tellement. Je rappelle que c'est quoi ? C'est 700 concerts par an quand même. Hein,
oui. C'est, malheureusement, j'écoute pas tous les 700 concerts parce qu'aujourd'hui, on est une machine de guerre, façon de parler, hein, dans la musique.
Avec une toute petite équipe, hein, il faut le préciser. C'est quand même un tour de force aussi.
Absolument. En disant qu'on est très organisé.
Voilà.
Maintenant, c'est effectivement une machine de guerre. On produit à la fois des artistes qui sont absolument inconnus, comme on produit des artistes qui sont très connus. L'idée, c'est qu'il y a des vases communicants. Les artistes qu'on a développés, je vais prendre un exemple comme Avishai Cohen, c'est des artistes qui ont atteint un seuil de notoriété tellement importante qui reviennent après chez nous pour nous renvoyer l'ascenseur d'avoir participé à leur avènement. Ça, c'est l'esprit des clubs de jazz et c'est comme ça que moi, je l'entends.
Justement, l'esprit du Sunset, pour toi, c'est ça. C'est à la fois d'avoir... effectivement des grandes figures comme ça qui marquent cette histoire et puis toujours aller sur l'émergence parce qu'il y a des très très jeunes artistes, tu leur donnes vraiment la chance de se produire parfois pour la première fois finalement sur...
On est souvent les premiers à les programmer. Même si le métier s'est complètement professionnalisé, on reste quand même dans un esprit extrêmement familial comme mon père l'avait mis en place, hein. Il avait extrêmement confiance avec tous les gens avec lesquels il travaillait, il laissait faire, il laissait vivre. Et c'est dans ce sens-là qu'on continue à avoir cette gestion artistique de la programmation et même du lieu. Moi, les clients me connaissent personnellement. C'est une grande famille. C'est pas un endroit où il y a de l'anonymat. Au contraire, il y a beaucoup de chaleur. Moi, j'insiste beaucoup sur l'aspect intimiste, la proximité qu'il peut avoir entre le public et les musiciens. Il faut savoir que chez nous, il n'y a pas de loge. Donc forcément, les musiciens sont quasiment obligés de rester dans la salle. Donc il y a un lien qui se crée. Pour les gens sont en raid scène. Ils peuvent toucher les musiciens. Ils peuvent les entendre respirer. Ils peuvent les entendre gémir parce que
Il n'y a pas de loge parce qu'il n'y a pas de place pour faire des loges.
Oui, c'est ça.
C'est aussi simple que ça.
Ça reste l'esprit club. C'est ce qu'aiment beaucoup les musiciens aujourd'hui. Si un musicien comme Avishai Cohen revient régulièrement, alors qu'il n'a pas besoin de nous, revient régulièrement dans un lieu comme le nôtre, c'est qu'il a besoin de retrouver ses impressions. Et puis, ils savent que, au-delà de ça, ce sont des lieux extrêmement importants pour la diffusion de la musique, dans le sens que si les clubs n'existent pas, il n'y aura pas de jeunes musiciens qui seront capables d'émerger. Nous, on est le premier chaînon de toute cette chaîne. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et les lieux, moi, je parle du Sunset, mais il y a bien d'autres lieux, on est très très important. Si nous, on n'existe pas, il y a tout un pan de la musique où on va retrouver toujours les mêmes et au bout d'un moment, on va s'emmerder.
Et alors justement, le jazz, c'est une musique qui est encore un peu difficile pour le grand public. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu observes, qui t'intéresse ? Est-ce que tu essayes aussi d'avoir un public un peu plus diversifié ou comment ça...
Moi, je ne suis pas d'accord avec cette réflexion.
D'accord.
Le jazz, évidemment, c'est un domaine musical, c'est une niche musicale qui demande un effort de concentration. On n'écoute pas de la musique, le jazz, comme de la musique urbaine ou de la variété. Maintenant, évidemment, il y a des courants dans le jazz qui sont plus faciles d'accès que d'autres. Mmh. On va prendre le jazz fusion, le jazz rock, le jazz groove, et d'autres qui sont plus difficiles d'accès, comme ce qu'on a appelé le free jazz, le jazz moderne. Voilà. Maintenant, chaque esthétique a son public. Moi, je pense que cette musique, on y vient parce que quelqu'un, il y a eu un vecteur. On n'y vient pas naturellement. Un jour, tiens, je vais me mettre à écouter du jazz.
C'est vrai.
Ça ne se passe pas comme ça. Mmh. C'est que soit on a eu une famille, un papa, une maman qui écoutait du jazz, soit parce qu'on a un copain qui est mélomane de jazz qui te fait écouter du jazz. C'est un parcours initiatique. Maintenant, cette musique, il ne faut pas qu'elle fasse peur. Au contraire, et ça reste un aboutissement dans un parcours musical. On se nourrit beaucoup plus d'émotions musicales avec le jazz qu'avec d'autres formes de musique.
Et justement, dans les esthétiques du jazz, est-ce qu'il y a eu des évolutions, toi qui, du coup, vis le jazz jour le jour depuis tant d'années, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé un petit peu dans...
Alors, chaque période a sa...
Ouais.
A
aujourd'hui, sa... par exemple
Chaque période a son jazz, hein.
Le jazz d'aujourd'hui.
Quand mon père l'a connu, c'était le jazz rock qui était à la mode, qui venait de...
Ouais, quand j'étais jeune, dans les années... dans les années 50, le jazz était pour danser. Hein. Ouais. Dans les clubs de jazz, il y avait des danseurs professionnels. C'était très joli à voir. Hein. Mm-hmm. Ils faisaient du jazz avec pirouette, etc. Hein. Ah oui, c'était très beau.
C'était des taxi drivers.
Oui, au club Saint-Germain-des-Prés, il y avait des couples qui venaient pendant une heure et qui dansaient. C'est un spectacle... C'était des danseurs professionnels. Hein.
C'était une musique populaire.
Et
pas
oui.
Oublier que l'après-guerre...
C'était un peu plus... C'était une Nouvelle-Orléans, un petit peu, au départ.
C'était plus festif.
Et après, ça s'est modernisé.
C'était plus festif, c'était une musique populaire. Il ne faut pas oublier que l'après-guerre, dans les balles, il n'y avait pas que de la musette, mais il y avait aussi des big bands de jazz qui faisaient de la musique qui était dansante. Sidney Bechet, etc. C'était de la musique qui est dansante. Après, il y a une métamorphose du jazz dans les années 50-60, avec, entre autres, l'arrivée de musiciens comme Charlie Parker, John Coltrane, ou Miles Davis, pour citer les plus connus, qui ont un côté un petit peu plus, je dirais, mainstream de cette musique, où c'était une musique qui s'écoutait, qui était plus dans l'écoute. Et puis après, il y a eu un autre qui a débouché sur ce qu'on appelle le free jazz. C'est peut-être que cette période a fait un petit peu de tort, je dirais, sur le grand public du jazz, parce que là, on est tombé, effectivement, avec des gens qui étaient très connaisseurs. Et si tu n'étais pas connaisseur...
Le free jazz, c'est un peu... Des fois, c'est un peu n'importe quoi. Non, mais c'est vrai.
Ouais, c'est très expérimental. Quoi.
C'est la déstructuration de la mélodie.
Exactement.
C'est de l'improvisation totale.
Ouais.
Et effectivement, c'est un peu compliqué pour le commun des mortels, le public large, parce qu'il ne va pas y retrouver... La musique...
La mélodie, on ne
voilà.
Trouve pas la mélodie, en fait.
Le cœur de la musique, ça reste la mélodie. Et dans le jazz, la mélodie, elle est travaillée juste sur une grille, et puis après, c'est de l'improvisation. C'est un courant musical qui a fait... Moi, je l'ai subi en tant que programmateur, puisque souvent, les gens, les clients qui nous appelaient au téléphone, qui ne connaissaient pas ce qu'ils venaient écouter, la première question qu'ils posaient, est-ce que c'est du free jazz ? Parce qu'effectivement, ils avaient dû entendre du free, et ça ne leur avait pas plu.
Ils ne voulaient pas, en fait.
Ça ne leur a pas plu.
Mais bon, des fois, il y avait des beaux concerts hein, en free jazz.
Ouais.
Nous, on avait un grand spécialiste du free jazz qui est malheureusement décédé, qui était Steve Lacy, qui venait très régulièrement.
C'était un peu plus que du free jazz. Hein. C'était... Non. Il a joué dans le free jazz, mais après, c'était du jazz moderne. Hein.
Oui.
Steve Lacy, il avait un son extraordinaire. Hein.
Et donc chaque période, je vais dire le début des années 90, c'est l'émergence du jazz électro. Tout d'un coup, alors je ne veux pas dire que on a un Ronnie Jordan, côté français on a un Saint-Germain, c'est-à-dire que c'est l'avènement du jazz avec le drum and bass, avec des DJ, des samples, etc. Et ça fait énormément de bien au jazz, puisque tout d'un coup ça a amené un public beaucoup plus jeune.
Ça a un peu éclaté les frontières.
Voilà, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, tous les courants de jazz sont extrêmement encore présents. T'as autant de boppers que t'en avais auparavant.
C'est vrai.
T'as autant de musiciens dans l'expérimentation que tu en avais auparavant. Tu as autant de gens qui défendent le jazz dansant.
Même le big band revient presque de manière assez visible.
Voilà, il y a une tradition et après chacun choisit un petit peu plus son contexte musical.
Mais le big band, c'est un peu difficile à gérer.
Surtout au Sunset.
Pour des questions de place. Hein.
Oui, c'est ça.
Et si vous avez un petit club, des fois, il y a plus de musiciens
que de public.
Mais sans ça, le big band, puis bon, ça demande quand même beaucoup de répétition et beaucoup de travail, le big band. Hein.
Oui, c'est sûr.
Ben, nous, on avait un big band, donc, quand j'ai repris la programmation, peu de temps après, on avait le big band des Belmondo, qui était là tous les mardis, je crois.
Ça s'appelait pas le big band des Belmondo, ça s'appelait le big band de... Et Belmondo était dedans, mais ça ne s'appelait pas le Belmondo.
Alors, il y a eu
Belmondo.
Plusieurs big bands, mais il y a eu le big band de Laurent Cuny.
Il y a eu le Laurent Cuny, qui était un peu plus électrique.
Et il y avait le big band de Belmondo, parce qu'on faisait un big band, ce qui était dans un endroit comme le nôtre, tu peux imaginer, parce que des big bands, c'est 17 musiciens, entre 16 et 18 musiciens. C'est vrai, il avait raison, c'était ingérable pour nous en termes de travail, mais il y avait une ambiance de feu, parce qu'un petit big band dans un lieu comme ça, ça pétait dans tous les sens. C'était des périodes où moi je suis très nostalgique, parce qu'il n'y avait pas du tout la même atmosphère qu'aujourd'hui, c'était sans limite.
Alors là, tu as quand même une programmation où tu veux retrouver un peu cette atmosphère. Je crois que tu vas faire des concerts un peu plus tard.
Alors, on a lancé depuis le mois d'octobre un nouveau rendez-vous qui s'appelle Midnight in Paris, qui est un rendez-vous qui démarre à minuit, un peu around midnight. Et l'idée, c'est de faire des concerts jazz et cinéma, où on reprend des répertoires du cinéma, mais dans une version jazz comme West Side Story, comme Ascenseur pour un échafaud, comme du moins il y a un certain nombre de
films,
comme Around Midnight. Il faut pas oublier que de nombreux compositeurs de musique de films ce sont des grands jazzmen.
Quel soir?
Le samedi soir.
Ah, le samedi soir.
Le samedi soir.
C'est qui s'en occupe?
Alors, il y a un orchestre maison qui est notre pianiste Laurent Courtaliac. Et à chaque fois, on a des invités différents, comme Estelle Perrault qui viendra bientôt faire une pige sur un de ses concerts. L'idée, c'est de retravailler un petit peu la nuit dans le jazz. C'est vrai que c'était un petit peu passé, un petit
retrouver
peu de mode.
Cette atmosphère, oui.
Voilà, cette... Donc voilà, on est en plein démarrage et je dois dire qu'on est plutôt très satisfait de ces premiers rendez-vous puisque le public est au rendez-vous.
Ah, très bien. Et alors sur les 40 ans précisément, les dates, tu peux nous les rappeler Stéphane, de la programmation des 40 ans du Sunset?
Alors ça va démarrer le 17 décembre. Alors à chaque fois on rajoute des dates en plus, mais je crois qu'on va s'arrêter le 17 décembre. On va démarrer bizarrement avec un musicien qui n'a jamais joué au Sunset.
Ah.
Avec
un musicien qui n'a jamais joué au Sunset.
Et c'est qui
s'appelle Robin Ford, qui est un musicien qui est une légende du jazz blues rock, qui nous fait l'honneur de venir. Et on va démarrer également avec les Belmondo, comme ça fera une bonne dualité.
D'accord.
Et on va terminer le 8 février avec une date non pas au Sunset, mais à la Cigale. Avec un groupe qui s'appelle No Jazz, qui est un groupe qui a démarré également chez nous, qui fait un jazz beaucoup plus festif, beaucoup plus dance floor. Et je dirais que la date phare de ces 40 ans, c'est le 28 janvier au Théâtre du Châtelet.
Alors là, c'est la grande soirée.
C'est la grande soirée. Alors évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde au Châtelet, mais on a un casting. Père, on va démarrer par Jean-Jacques Milteau et son nouveau projet Lost Highway. Suivront un duo qui a démarré chez nous, Sylvain Luc et Stéphane Belmondo. Et un pianiste qui terminera cette première partie, qui est Jacques Terrasson, qui est un fidèle de notre établissement. Et on fera une deuxième partie qui sonne plus, un peu plus Sunset Records, qui est le label maison du club, puisque Aujourd'hui, on a essayé de trouver de nouveaux débouchés et d'accompagner les musiciens avec lesquels on a construit, avec lesquels on est des camarades. Donc on fera le nouveau projet de David Elmaleh, qui est la future production de Sunset Records, qui sortira au mois de mars prochain. On aura le pianiste Yaron Herman également. Et on aura le nouveau projet là, qui vient de sortir ces jours-ci, qui est le Étienne Mbappé Neck Plus. Et on finira par la légende. Il y a deux légendes au Sunset. Uh-huh. Et il y a une légende au masculin et une légende au féminin. Et la légende des légendes du Sunset, qui est Rhoda Scott, avec son Lady All-Star, qui viendra présenter le nouvel album qu'on sortira courant janvier. L'autre légende qu'on n'a pas parlé depuis, et mon père l'a bien connu, c'est Didier Lockwood.
Oui.
Didier Lockwood, je pense qu'il a marqué...
Didier Lockwood, il nous a beaucoup aidé. Hein. Mm. Il cherchait un endroit, il nous a trouvé, et il nous a beaucoup aidé. Hein.
Un souvenir avec lui
C'est un garçon qui était un peu visionnaire, hein, et il a amené beaucoup de monde.
Ouais.
Il a construit beaucoup de groupes chez nous. Hélas, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, au mois de février, je crois. Peut-être 3 ans, ça va faire.
Oui, au mois de février.
Hein, ça va faire 3 ans au mois de février. Il avait été faire le bœuf un peu plus loin. Il était toujours dans l'échange, quoi. C'est un garçon qui était dans l'échange.
Et donc un hommage à Didier Lockwood alors
Oui, en fait Didier, en plus à cette époque-là, le Sunset, tu n'avais pas besoin de faire de programmation 6 mois à l'avance. Mmh. Tu pouvais très bien dire, Didier arrivé, est-ce qu'on peut jouer la semaine prochaine et ça se faisait naturellement. Ben,
j'ai une petite anecdote sur Didier. À un moment donné, il est parti, il voulait aller voir aux États-Unis parce que beaucoup de choses dans le jazz se passent à New York. Et donc, il est venu me voir, il m'a dit, oh, je vais partir pendant quelques années aux États-Unis. Et il m'a dit, j'aimerais bien faire un concert d'adieu. Nous, à l'époque, on n'était pas ouvert le 31 décembre pour les... On n'était pas ouvert. Et j'ai dit à Didier, ben écoute, j'ai le 31 décembre, on ouvre si tu veux. Et il m'a dit, ok. Et alors, on a eu un quartet exceptionnel. Il y avait Didier Lockwood, il y avait Joachim Kuhn au piano... Il y avait Jean-François Jenny Clark à la contrebasse et il y avait Tony Rapson à la batterie. Et on avait été dîner avec Didier et puis les musiciens. Puis on avait un peu traîné. Ali nous avait offert le champagne. Et quand on a voulu aller au Sunset, on avait fermé tout à clé. Il y avait tellement de monde devant le Sunset. Ils ne voulaient pas nous laisser passer pour rentrer. Alors, ils disent, si vous voulez écouter de la musique, il faut nous laisser passer. Donc, il y avait eu un concert exceptionnel hein, qu'on n'a pas enregistré, c'est bien dommage.
Je rajouterais quand même un épisode sur Didier Lockwood parce que Didier vraiment a aidé énormément notre établissement. Parce que par la suite, quand il est revenu des États-Unis, il était à cette époque-là sur le label Dreyfus et il venait passer, ce qui ne se fait plus du tout aujourd'hui, il passait un mois complet. Au Sunset, avec 2 concerts par soir. Donc c'était un espèce de marathon. Et moi, je garde des souvenirs incroyables parce que avoir un même musicien pendant un mois, tous les soirs, en plus, c'est un musicien qui était extrêmement professionnel et d'une gentillesse et d'humilité incroyable, qui prenait le temps de parler à chaque personne, très proche de son public. Et c'était des espèces de marathons très fatigants, à la fois pour nous et pour les musiciens. Il y avait à peu près 3 heures de musique et on a dû le faire 2-3 fois, voire 3-4 fois. Voilà, donc c'est un musicien qui a toujours aimé ce lieu-là et qui a toujours envoyé l'ascenseur pour aider le lieu à continuer à vivre. Et ça, c'est le plus beau cadeau, c'est l'affirmation de notre travail.
Oui, quand il est rentré des États-Unis après, il est parti, il est venu me voir, il m'a dit « je voudrais faire un concert avec mes musiciens américains ». Il était avec une rythmique américaine. Et il me dit, voilà, il faut leur donner tant d'argent. Hein. Eux, ils joueront pour ce prix-là. S'il ne reste pas d'argent pour moi, ce n'est pas grave. Vous voyez, comme quoi, c'est de la musique qui coûtait avant tout.
Oui, les musiciens, de toute manière, les musiciens, de manière générale, ils ne viennent pas pour le cacher chez nous. Ils viennent plus pour l'ambiance, plus pour l'esprit, plus pour le renom de jouer dans un établissement comme le nôtre. Bien évidemment, avec la chose dont on dispose... On ne pourra jamais s'aligner sur des cachets de festivals ou d'autres. Mais bon, c'est logique. Mais Didier, pour moi, reste, si je devais garder un musicien dans l'histoire du Sunset et du Sunside, ça serait bien lui.
On va terminer là-dessus avec Didier Lockwood, du coup.
Absolument.
C'est une belle conclusion. Évidemment, longue vie au Sunset Sunside pour les 40 prochaines années.
Écoute, on va déjà fêter les 40 ans, et puis j'espère les 50 ans, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une longévité incroyable pour un club de jazz. Je crois qu'on n'en a pas parlé, mais le fait est qu'il y a cette rue des Lombards, avec le Duc et le Bézissalé, je pense que s'il n'y avait pas eu ces trois lieux, peut-être que le jazz n'existerait plus dans cette rue des Lombards. Il ne faut pas oublier...
Les trois lieux en même temps, tu veux dire.
Ça a créé une émulation, une énergie... incroyable, cette rue est unique dans le monde. On se souvient encore dans les années 50 de la 52e rue à New York, mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, pour une fois, les Américains nous ont envie d'avoir une rue comme ça.
Ah oui, donc même les Américains viennent
à Paris, quand ils sont à Paris, ils ont fini leur concert. Hein. Je me souviens d'un soir où j'ai vu Herbie Hancock et Miles Davis débarquer. Au Sunset, en fin de soirée, boire 3-4 cognac. Ils n'ont pas joué, mais voilà, c'est un carrefour de musiciens. Et dès que les musiciens, quand ils ne jouent pas dans la rue des Lombards et qu'ils sont à Paris, ils viennent rue des Lombards pour voir ce qui s'y passe.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement aussi des musiciens étrangers hein, que tu programmes, pas que la scène française.
Il n'y a pas que la scène française. Voilà.
Merci.
Allez, on va manger.
Ouais, j'ai faim.
C'était Jazz Interview sur Art District Radio. Pour retrouver toute la programmation des 40 ans du Sunset, rendez-vous évidemment sur le site internet du club, sur leur page Facebook et aussi sur le site de notre web radio. Vous saurez tout. À très vite. Thank you.